S'il y a bien une chose qui cartonne en ce moment dans le monde de la balado-diffusion, c'est le true crime, n'est-ce pas? Les récits d'histoires criminelles, souvent des crimes non élucidés. Mais il est plus que temps que je m'y mette. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous raconte ce qui est, de l'avis de plusieurs, un des assassinats politiques les plus significatifs du 20e siècle et un crime qui n'a pas été élucidé, s'il en est un. Se pourrait-il qu'un secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ait été carrément éliminé parce que des gouvernements et ou des compagnies minières multinationales le trouvaient dérangeant? L'ONU voit le jour en 1945, c'est le Norvégien Trygve Lie qui sert à titre de premier secrétaire général. Il démissionne en 1952, déclenchant une crise qui va durer plusieurs mois alors qu'on ne parvient pas à lui choisir un successeur. On est à une période de grande tension internationale. Tous les candidats sont trop proches des Soviétiques au goût des Occidentaux ou trop proches des Occidentaux au goût des Soviétiques. D'ailleurs, le futur premier ministre du Canada, Lester B. Pearson, comptait de nombreux appuis pour obtenir le poste, mais l'URSS a opposé son veto. On commence à un moment donné à proposer un peu n'importe qui dans l'espoir de trouver un candidat qui ferait consensus. Et un des noms proposés est celui d'un membre de la délégation suédoise à l'ONU, Dag Hammarskjöld. Dans la famille Hammarskjöld, tout le monde fait de la politique, à commencer par son père qui a été premier ministre de Suède. Dag a étudié le droit et l'économie, il a travaillé à la banque centrale de son pays, au ministère des Finances et des Affaires étrangères, il est même nommé ministre sans portefeuille du gouvernement suédois en 1951. À l'ONU, on le considère comme un technocrate sans grande envergure. En plus, c'est quelqu'un qui vient de la bonne société, qui connaît bien les rouages de la politique. Les Soviétiques le considèrent, je cite, comme étant inoffensif et se disent prêts à voter pour lui, ce qui va déclencher une certaine panique au secrétariat d'État des États-Unis. On savait à peine qui il était. Finalement, on se met d'accord pour élire Hammarskjöld secrétaire général le 31 mars 1953, un peu à l'étonnement général, et le premier surpris a été Dag Hammarskjöld lui-même. Personne ne lui avait dit que son nom était proposé, et quand il commence à recevoir des téléphones de gens qui lui demandent ses impressions suite à son élection, il croyait à un poisson d'avril. Mais ce n'était pas un canular, et après mûre réflexion, il décide d'accepter le poste. Au bout de ses 8 ans à la tête de l'organisation, John F. Kennedy dira du technocrate sans grande envergure qu'il était le plus grand homme d'État du 20e siècle, rien de moins. L'ONU va prendre beaucoup d'ampleur sous la gouverne d'Hammarskjöld et le secrétaire général s'implique directement dans bon nombre de conflits. En 1956, c'est à son initiative et à celle de Lester B. Pearson que les Nations Unies déploient pour la première fois une force de maintien de la paix, les fameux casques bleus, pendant la crise du canal de Suez. Hammarskjöld va aussi à plusieurs reprises prendre le parti des petites nations, tout particulièrement les nouveaux pays africains qui ont obtenu leur indépendance en cascade à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Ça ne le rendra pas très populaire auprès des anciennes nations colonisatrices et des grandes puissances. L'Union soviétique va demander à plusieurs reprises sa démission. Sa dernière intervention sur le terrain survient en 1961 pendant la crise au Congo, aujourd'hui la République démocratique du Congo. J'ai consacré un épisode à l'histoire franchement abracadabrante de ce pays qui a été la possession personnelle du roi de Belgique, Léopold II, avant de devenir une colonie belge. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous le recommande. Le pays obtient son indépendance de la Belgique en 1960, mais les choses tournent mal dès le départ. Il y a des mutineries dans l'armée, des violences opposant la majorité noire et la minorité blanche associée aux colonisateurs. L'armée belge intervient pour protéger ses ressortissants et ses intérêts. Moins de 2 semaines après l'indépendance, une province nommée le Katanga, riche en ressources minérales, décide de faire sécession du nouvel État. On retrouvait notamment beaucoup de cuivre et d'uranium dans le sous-sol de la région, et je le mentionne parce que la sécession du Katanga et celle d'une partie d'une province voisine moins d'un mois plus tard était soutenue par des grands conglomérats miniers étrangers qui redoutaient que le nouveau premier ministre du pays, Patrice Lumumba, ne nationalise les ressources minières du Congo. Lumumba sera déposé et assassiné, le pays se fracture, mais Hammarskjöld et l'ONU vont s'impliquer dès le départ et c'est un dossier qui tient le secrétaire général très à cœur. On envoie une force de maintien de la paix dans le pays. On tente de convaincre les factions de dialoguer, d'amener le Parlement à se réunir. Hammarskjöld se rend personnellement au Congo à plusieurs reprises. Mais la force de maintien de la paix, qui avait aussi pour mission de désarmer les mercenaires étrangers qui servaient au Katanga, va carrément passer à l'offensive sans qu'on ait obtenu l'aval de tous les pays membres. On organise une rencontre entre Hammarskjöld et le président du Katanga sécessionniste pour tenter de trouver une sortie de crise. Et le secrétaire général part de Léopoldville, Kinshasa, aujourd'hui capitale du Congo, à bord d'un avion DC-6 pour se rendre à Ndola, dans le protectorat britannique de Rhodésie du Nord, qui est aujourd'hui la Zambie. On sait que la mission comporte des risques. L'avion ne publie pas de plan de vol, ce qui est exceptionnel, et on contourne l'espace aérien du Katanga. Un peu après minuit, le 18 septembre 1961, l'avion s'écrase, tuant 15 des 16 personnes à bord. Le seul survivant est grièvement blessé et va décéder quelques jours plus tard. À bord de l'avion, il y a les pilotes, Hammarskjöld, son personnel de sécurité et un petit groupe de conseillers et d'adjoints dont fait partie la Québécoise Alice Lalande. Elle est née à Joliette en 1913, entrée au service de l'ONU très tôt après la fondation de l'organisation. Lalande a participé à de nombreuses missions dans des zones de guerre, notamment au Moyen-Orient, et à plusieurs grandes conférences internationales. Et là, elle faisait partie du cercle restreint autour du secrétaire général pour cette périlleuse mission qui lui a été fatale. Après l'accident, une commission d'enquête rhodésienne va rapidement conclure à une erreur de pilotage. L'incident est clos. Mais si je vous en parle presque 63 ans plus tard, c'est que l'incident n'était pas si clos que ça. D'ailleurs, une enquête commandée par les Nations Unies peu de temps après a conclu qu'elle ne pouvait pas conclure quoi que ce soit sur ce qui s'était réellement passé. Au fil de toutes les enquêtes, tous les livres, les reportages, les documentaires consacrés à l'événement, on a accumulé un nombre impressionnant de différents éléments qui portent à croire qu'il ne s'agit pas d'un banal accident, et je vous en mentionne quelques-uns. D'abord, il y a des paysans à Ndola qui disent avoir vu un avion approcher et, dans certains cas, abattre l'appareil de l'ONU ce soir-là. C'était des paysans africains et noirs. On n'a pas donné beaucoup de poids à leur témoignage. Autre témoignage auquel on n'a pas donné beaucoup de poids, celui du seul passager qui était toujours vivant quand les secours sont arrivés bien des heures après l'écrasement. C'est un Américain du nom d'Harold Julian. Et de son lit d'hôpital, il a parlé d'une explosion survenue avant que l'avion ne s'écrase. On a dit qu'il était mourant, qu'il n'était plus très lucide, ce qui est potentiellement vrai. Mais il apparaît quand même que les autorités de Rhodésie ont tenté d'empêcher son témoignage d'être rendu public. Trois décennies après l'accident, deux anciens collègues d'Hammarskjöld à l'ONU ont publié un texte dans un journal britannique où ils disaient être convaincus que l'appareil avait été abattu par des mercenaires belges travaillant pour des grandes sociétés minières. Depuis, il y a au moins deux agents de l'Agence de la sécurité nationale des États-Unis, la NSC, qui ont déclaré, à visage découvert, avoir entendu une conversation interceptée par l'agence où un mercenaire belgeo-anglais, identifié comme étant un nommé Jan van Rysgem, disait avoir abattu le DC-6 du secrétaire général. Il y a un des deux témoins qui a raconté qu'on entendait les rafales de mitraillettes qui ont touché l'appareil dans l'enregistrement. Dans un documentaire de 2019 intitulé « Cold Case Hammarskjöld », un collègue de Van Rysgem dit que ce dernier lui a déjà raconté le soir où il a abattu l'avion et que c'était bien su dans le monde du renseignement belge que Van Rysgem était effectivement responsable de ce qui est arrivé. Il y a aussi toute la question d'une société secrète de suprémacistes blancs d'Afrique du Sud qui aurait reçu pour mission, possiblement du chef des services secrets sud-africains, d'éliminer ce diplomate qui voulait rendre l'Afrique à la majorité noire du continent. Il y a des témoins qui ont dit que des hommes blancs, dont certains étaient en tenue de combat, sont passés sur le site de l'écrasement avant que les secours officiels n'arrivent. Il semblerait aussi qu'on a retrouvé une carte à jouer, l'as de pique, sur le corps de Dag Hammarskjöld. Et selon un homme interrogé dans le documentaire dont je vous parlais il y a un instant, qui disait avoir fait partie du groupe de suprémacistes blancs en question, ce serait la preuve de l'implication de la CIA dans l'affaire. Et je pourrais continuer comme ça pendant encore un bout de temps, mais tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de zones d'ombre dans toute cette affaire, et les gouvernements de certains pays, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud, pour ne pas les nommer, n'ont pas vraiment fait preuve de transparence dans les différentes enquêtes organisées au cours des 6 dernières décennies. Et avec le passage du temps, alors que les gens qui ont vécu l'événement continuent de nous quitter, il y a de bonnes chances qu'on ne sache jamais réellement ce qui est arrivé à Dag Hammarskjöld, à Alice Lalande et aux 14 autres victimes de l'écrasement du 18 septembre 1961.